La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Comment se fait-il qu'à différentes époques, à des distances très éloignées et sans aucun moyen de communiquer, les hommes de la préhistoire ont eu besoin de s'exprimer en produisant de l'art sous plusieurs formes? Peinture, gravure, sculpture, les parois rocheuses ou les objets se sont développés sur plusieurs continents. Et les éditions Citadel et Masno publiaient en janvier un beau livre qui fera date sur l'histoire de la préhistoire. Dans un instant, je reçois l'archéologue Carole Fritz qui l'a coordonné avec le préhistorien et plasticien Gilles Tozello. Ils sont mes invités pour un tour du monde des centres mondiaux de l'art rupestre. Cette émission est une rediffusion d'un entretien réalisé en janvier dernier. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science, nous partons aujourd'hui combattre les infections.
Oui Mathieu, et vous le savez sûrement, notre meilleure arme contre les infections, c'est notre système immunitaire. Mais notre cerveau s'en mêle aussi, c'est l'objet d'une publication marseillaise cette semaine. On entre dans le détail dans un instant.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons nos partenaires de France 5 pour le documentaire de la soirée Science Grand Format qui sera consacré ce soir à l'un des volcans les plus actifs au monde. Il se trouve en Afrique. Fanny Boyon réalise cette tête au carré préparée par Chantal Le Montagnier.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
L'art de la préhistoire, ce sera donc le dossier dans un instant de l'émission avec mes invités que je salue, les préhistoriens Carole Fritz et Gilles Tozello. Bonjour à tous
Bonjour.
Les deux.
Bonjour.
Bienvenue Carole Fritz. Est-ce que c'est Homo sapiens qui a inventé l'art? On peut dire les choses comme ça ou pas?
Alors inventer, moi je dirais oui. Faut savoir que c'est des questions qui sont un peu polémiques.
Hein. N'est-ce pas?
Moi je pense, et nous pensons, pour ceux qui ont participé à l'ouvrage, que c'est Homo sapiens sapiens qui a produit les premières images complexes. Ouais. Je ne parle pas de symbolisme, je parle d'image.
Ouais.
Et la différence, elle est là.
On va en parler évidemment avec vous dans un instant. Gilles Tozello, vous avez travaillé vous sur la reproduction de la fresque des lions, par exemple, hein, dans la grotte Chauvet. Alors vous avez eu la chance d'y aller de très nombreuses fois. Est-ce que les hommes préhistoriques étaient des artistes avec un haut degré de technicité?
Oui, ben ça je crois qu'on peut le dire sans grande difficulté. C'est ça d'ailleurs probablement qui fait le côté le plus humain hein, qui passe de la préhistoire. C'est toujours vers ça, que vers l'art qu'on se tourne hein, lorsqu'on s'intéresse à la préhistoire. C'est ça qui est le plus populaire et c'est pas pour rien, quoi.
Allez, on va en discuter donc ensemble dans quelques minutes autour de ce beau livre, L'art de la préhistoire, publié chez Citadel et Masno. Et Axel, donc à la une de la science, on part combattre les infections avec son cerveau. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
C'est très sérieux Mathieu, le cerveau s'associe au système immunitaire en cas d'infection pour gérer la crise. Des travaux français entrent dans le détail des mécanismes qui se mettent en place quand nous combattons un virus ou une bactérie. C'est ce que vous entendez d'ailleurs, c'est une vocation.
Hein.
C'est une balance assez fine entre système nerveux et système immunitaire pour éviter la surinflammation. Notre invité est avec nous, bonjour Sophie Ugolini.
Bonjour.
Vous êtes en direct depuis les locaux de Radio France à Marseille. Vous êtes directrice de recherche au Centre d'immunologie de Marseille-Lumini, affilié à l'INSERM, au CNRS et à l'Université d'Aix-Marseille. Et vous publiez avec votre équipe ces travaux très intéressants dans la revue Nature Immunology. Alors avant d'entrer dans le détail des résultats, expliquez-nous un peu, on va dire grossièrement, ce qui se passe en cas d'infection et pourquoi on dit que le cerveau s'associe à la bataille.
Lorsque notre organisme est infecté par un virus ou par une bactérie pathogène, les cellules de notre système immunitaire sont un peu comme des sentinelles et elles reconnaissent l'intrus et s'activent. Alors, cette activation entraîne une inflammation et cette réaction inflammatoire est très importante pour permettre au système immunitaire de lutter contre l'infection et d'éliminer les agents pathogènes.
Mmh.
Cependant, cette réaction inflammatoire doit être très finement régulée.
Mmh.
Si elle est trop forte, elle peut avoir des effets toxiques sur l'organisme lui-même. Donc, nous avons identifié dans cette étude un nouveau mécanisme de régulation de cette inflammation. Alors en fait, ce qu'on a montré, c'est que lorsque le système immunitaire s'active, il alerte aussi le cerveau et il lui envoie des signaux moléculaires qui vont l'informer qu'une infection est en cours dans l'organisme. Et en retour, une région du cerveau qui est appelée l'hypothalamus va produire des molécules qui indirectement induisent la production dans le sang d'hormones appelées glucocorticoïdes.
Donc ça veut dire que le cerveau, pardon, je vous ai coupé Sophie, mais ça veut dire que le cerveau, il envoie des messagers directement sur le lieu de l'infection pour lui aussi participer.
Alors, en fait, il envoie ses signaux dans le sang et le sang va se distribuer dans tous les organes, y compris à l'endroit où l'infection a lieu.
Et quel est le but alors de ces messagers ?
Alors, ces hormones glucocorticoïdes sont des hormones très intéressantes car elles ont des propriétés anti-inflammatoires puissantes. Mmh. Alors, elles sont d'ailleurs largement utilisées en médecine humaine depuis longtemps. Mais notre étude révèle leur importance dans le cadre d'une infection virale. En fait, ce sont les hormones endogènes qui jouent un rôle très important. Et donc, dans ce contexte d'infection virale, l'activation de notre cerveau via la production de ces hormones permet à l'organisme de mieux résister à la maladie, et en particulier en empêchant l'emballement de la réaction inflammatoire.
Alors, vous, qu'est-ce qui vous a intéressé ? Vous avez dit, on le connaît depuis un moment et on connaît ces hormones. Qu'est-ce qui vous a intéressé précisément dans cette réaction que vous décrivez ?
Nous avons choisi d'étudier une infection virale et d'essayer de comprendre les mécanismes d'action de ces hormones. Et pour cela, nous avons travaillé sur des souris qui sont génétiquement modifiées et qui nous permettent d'enlever le récepteur de ces glucocorticoïdes sur certaines cellules immunitaires. Et grâce à ces outils génétiques, nous avons pu montrer qu'une sous-population de cellules qui s'appelle « natural killer » sont très importantes dans cette régulation. Et en particulier, lorsque les souris n'ont plus cette voie de régulation, et qu'elles sont infectées par un virus, elles sont beaucoup plus susceptibles à l'infection et elles succombent à l'infection beaucoup plus souvent que des souris normales.
Et pourquoi vous les appelez les natural killers alors exactement ?
Alors parce que ce sont des cellules qui initialement ont été identifiées parce qu'elles pouvaient tuer d'autres cellules anormales, en particulier des cellules cancéreuses. Et donc, on les appelle les cellules tueuses naturelles.
Alors, Sophie Ugolini, si j'ai bien compris, ça veut dire que si on coupe le cerveau, c'est-à-dire si on coupe sa participation, l'infection est mortelle parce qu'il y a une surinflammation. C'est ça que vous avez dit ?
Alors, on coupe pas le signal qui vient du cerveau, mais la réceptivité de ces cellules à ce signal.
D'accord.
Et en effet, lorsqu'il n'y a plus cette réceptivité, puis cette régulation est abolie, les souris vont succomber à l'infection virale.
Est-ce qu'il existe d'autres moments dans la vie, en dehors des moments d'infection, où notre cerveau sécrète ces hormones ?
Alors, ces hormones sont très importantes dans de nombreux contextes physiologiques et pathologiques. En particulier, ce sont des hormones sécrétées au cours du stress psychologique ou du traumatisme. Également, cette voie est activée dans le cas de pathologies inflammatoires ou de pathologies auto-immunes.
Ça veut dire que le stress a un impact en cas d'infection ?
Alors, ces hormones qui sont produites par le stress peuvent jouer sur les réponses immunitaires et donc, en effet, peuvent moduler les effets de l'inflammation.
Mais dans quel sens ? On sait le dire aujourd'hui ?
Alors, nous, dans notre étude, on a essayé de comprendre les mécanismes moléculaires qui sont sous-jacents à cette régulation. Et on a en particulier identifié un rôle important d'une molécule inhibitrice qui s'appelle PD1, qui est une molécule qui suscite aussi beaucoup d'intérêt par ailleurs.
Et pourquoi ?
Alors en fait, cette voie PD1 est une voie qui est actuellement ciblée par des traitements anticancéreux et qui donne des résultats très, très intéressants et très prometteurs. Dans ce cas, on essaye d'augmenter la réponse immunitaire. Donc, on bloque cette voie.
Donc, on remplace en quelque sorte le cerveau artificiellement ?
Non, pas tout à fait. dans le cas de l'infection, le cerveau va réguler négativement l'inflammation. Et donc, cette voie inhibitrice qui passe par la molécule PD1 va être protectrice, puisqu'elle va empêcher trop d'inflammation.
Merci beaucoup en tout cas Sophie Ugolini pour ces précisions. Vous étiez donc en duplex des bureaux de Radio France à Marseille. Merci beaucoup et Axel, à demain.
Merci.
À demain.
Allez, l'art préhistorique, c'est le dossier de l'émission dans un instant. Les Oxalis, c'était Charlotte Gainsbourg.
La tête au carré sur France Inter.
L'art de la préhistoire, c'est un livre exceptionnel qui vient de paraître aux éditions Citadel et Masneau et qui retrace à l'échelle mondiale l'ensemble des connaissances donc sur les premiers chefs-d'œuvre de l'humanité avec une iconographie 700 illustrations et c'est le dossier de l'émission cet après-midi avec mes invités Carole Fritz et Gilles Tozello. Carole Fritz, vous êtes donc archéologue, spécialiste de l'art préhistorique, chercheuse au CNRS et responsable du Centre de recherche et d'études de l'art préhistorique Émile Cartaillac. C'est à la Maison des sciences de l'homme et de la société à Toulouse, et vous avez coordonné ce travail, ce livre, donc sur l'art de la préhistoire. Et puis Gilles Tozello, vous êtes plasticien et préhistorien, et vous êtes membre de ce laboratoire Traces du CNRS dont on a déjà parlé dans l'émission. Vous avez travaillé entre autres à la reproduction de la fresque des lions au sein de la grotte Chauvet, et les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. D'abord, j'ai deux questions à vous poser. Parce qu'évidemment, vous avez fréquenté ces grottes, et la grotte Chauvet en particulier, de très près. Vous êtes des privilégiés, hein, vous en rendez bien compte, par rapport à tous ceux qui n'auront pas la chance d'aller voir ces sites. Qu'est-ce qu'on ressent justement quand on pénètre dans ces lieux, presque comme des découvreurs au fond, Carole Fritz?
La première entrée, elle s'est faite quand Jean-Claude a monté l'équipe scientifique, puisqu'on fait partie de l'équipe scientifique. Ouais. Et là, ça a été un choc émotionnel intense.
C'était tout de suite après la découverte? À quel moment ça s'est fait? Parce que la découverte, c'est 94.
C'est 94.
Faut le rappeler pour
Chauvet.
Nous,
on a dû rentrer en 96, l'équipe scientifique. Et là, ça a été... on avait vu des photos, hein, bien sûr.
Bien sûr, oui.
Mais entre les photos et la réalité, parce que c'est une grotte qui est magnifique de par les dessins, mais magnifique par l'environnement aussi. Ouais. Parce qu'elle est très bien conservée. Il y a eu beaucoup de calcite qui se sont déposés. C'est extraordinaire. Et le choc a été... Bon, je me suis mise à pleurer devant le panneau des chevaux. Mais c'est comme sous le plafond de la chapelle Sixtine ou les bisons de la grotte d'Altamira. C'est-à-dire que ça a été très très fort, très intense. Mmh. Et malgré toutes ces années, c'est resté. C'est-à-dire que
l'émotion reste la même
parce qu'on est face à des œuvres qui sont les œuvres d'art de l'humanité. Quoi.
Absolument. Alors, quant à vous, Gilles Tozello, parce que vous avez aussi, en travaillant à la reproduction, vous avez été aux premières loges avec du temps en plus. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que vous avez pu rester très longtemps face à ces œuvres. Qu'est-ce qu'on ressent alors face à ces travaux de ces artistes?
On ressent un profond respect pour justement ce travail artistique, c'est-à-dire on est habitué à voir le résultat, ce qui est magnifique sous nos yeux, etc. Et moi, en fait, je me suis beaucoup intéressé à l'occasion de la réplique. Je me suis dit, tant qu'à reproduire une œuvre, autant essayer de comprendre comment elle a été faite, de façon à la reproduire de manière plus intelligente et sans doute plus efficace au niveau du rendu. Et donc, c'est là qu'on voit, effectivement, tous les choix, les hésitations, les repentirs, finalement, à la fois la méthode et les objectifs des artistes.
On peut ressentir des hésitations artistiques.
Ah oui, il y en a peu, mais on en a, moi j'en vois quelques-unes avec certitude, c'est-à-dire des corrections de tracé, puisque sur le rocher, on ne peut pratiquement rien cacher. Il n'y a pas de gomme, si vous voulez. Voilà, il faut gratter.
Alors justement, il y a une première question qui arrive de la part de Sylvain et que je voulais vous poser. Est-ce qu'on parle d'art pariétal ou d'art rupestre, et quelle est la différence exactement entre les deux?
C'est une différence de langage.
Ouais.
On parle plutôt d'art pariétal pour l'art des grottes, qui est essentiellement l'art du paléolithique supérieur, il faut le dire, hein, donc entre moins 40 000 et moins 10 000. Mmh. Et pour l'art de plein air, on parle d'art rupestre. Mais il est vrai que dans le langage, ça se mélange un peu.
Voilà.
Alors, c'est vrai que moi, je dirais plutôt, j'ai tendance à dire plus pariétal parce que je suis paléolithicienne à l'origine. Mais les gens qui travaillent plutôt sur le rupestre en extérieur diront rupestre. Mais c'est la même chose, c'est de l'art, des expressions graphiques sur les parois de les roches.
Ouais. Sauf qu'on va voir justement que le travail artistique à l'intérieur des grottes ou à l'extérieur, c'est pas du tout la même chose, et en particulier selon les régions du monde. Hein.
Ah oui, il faut savoir que les grottes, elles sont plutôt en Europe. Il y a quelques grottes ornées dans d'autres continents, mais majoritairement, donc c'est l'art du paléolithique supérieur. Et après le paléolithique supérieur, la grotte va sortir de l'esprit humain, si je puis dire. Ouais. Puisque pénétrer dans une grotte à 300 mètres de l'entrée, par exemple, pour notre culture judéo-chrétienne, c'est assez mal vu. Alors que pour le paléolithique, c'était le fondement de leur racine.
Ouais. Gilles Tozzello, on peut parler de quel type de forme artistique, justement, parce que là, on a l'idée justement des parois et de la peinture, mais il n'y a pas que ça hein, dans l'art préhistorique, loin de là. Hein.
Non, c'est une infinie diversité. Il y a évidemment les peintures, les dessins, donc qui sont faits à base de pigments, de couleurs, appliqués avec les doigts, appliqués avec des pinceaux. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle des gravures, hein, qui sont donc des enlèvements de rochers, de matières, avec des galets, avec des silex taillés, parfois même avec des outils métalliques, ouais. Pour les civilisations les plus récentes. Et puis après, vous avez aussi des sculptures, hein, donc qui sont beaucoup plus rares, mais qui existent à peu près sur tous les continents, dans les grottes et en plein air. Bon, le problème des sculptures de plein air, c'est qu'elles sont souvent beaucoup moins bien conservées. Hein. Mais non, on a à peu près la gamme de tout ce qu'on appelait autrefois les beaux-arts.
Oui. Hein, voilà. Avec des objets, donc aussi. Hein.
Et il y a aussi, évidemment, il ne faut pas les oublier, l'univers incroyable, enfin, en nombre de tous ces objets, ouais. Peints, sculptés, gravés, etc.
Ouais, alors Pierre demande à quelle époque on découvre justement les premières œuvres d'art pariétal. Est-ce qu'il n'y a pas eu scepticisme lors des premières découvertes? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'incrédulité, Carole Fritz? On a une date officielle d'apparition, au fond, de cet art rupestre ou pas?
Alors, oui, l'apparition de l'art rupestre. Alors, il y a deux choses. Il y a la reconnaissance de l'art rupestre, qui est 1902. En Europe. Hein. C'est un grand colloque qui s'est tenu en Dordogne, le coq de la face, où là, tous les préhistoriens sont réunis. Il y a eu la découverte d'Altamira. Hein. Ne pas oublier en Espagne que Altamira, à la fin du 19e, notamment Émile Cartaillac, trouvait que les peintures étaient trop fraîches.
Ouais. Mais elles avaient quel âge en l'occurrence?
Elles avaient 15 000 ans.
Voilà.
Mais il
la
a écrit.
Était longue à sécher.
Mais il a écrit par la suite, quand même, il y a peu de chercheurs qui le font, hein, le mea culpa d'un sceptique pour dire ok, je me suis trompé. Et en 1902, il y a un colloque où beaucoup de discussions, parce qu'il y aura quand même des gens qui n'y croiront pas, mais où les grands préhistoriens présents, dont Cartaillac, dont Breuil, et puis Émile Rivière, qui travaille sur les sites de Dordogne, disent ok, c'est comme ça, les hommes antédiluviens ont aussi peint dans les grottes. Parce qu'on savait déjà qu'ils faisaient des objets gravés.
Oui. Puisque ça, c'était admis quand même.
C'était difficile, c'était admis, mais difficile quand même. Faut pas oublier que la séparation de l'Église et de l'État, c'est au même moment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a aussi tout ce poids-là derrière, hein, qui est très lourd à porter. Mmh. Mais 1902, on sait que les hommes préhistoriques faisaient des dessins, et en plus de dessins de faune disparue.
Ouais. Donc ça, c'est le moment où on admet justement que les hommes ont été des artistes, mais les premières œuvres en elles-mêmes, la plus ancienne datation finalement, elle remonte à quand?
Vous voulez dire la première grotte ornée découverte?
Traditionnellement, on dit que l'art le plus ancien, finalement. S'il faut prendre un objet ou une peinture, la datation la plus ancienne et qui sert d'étalon un petit peu.
Ancien, traditionnellement, on dit que c'est une gravure sur os qui viendrait de la grotte du Chaffaut, qui se trouve dans la Vienne, donc dans le Poitou, et qui aurait été décrite comme d'âge celtique à l'époque par Prosper Mérimée. Enfin, voilà. Donc c'est en 1834. Mais ça, moi j'ai fait quelques recherches pour essayer de confirmer vraiment ces dates. Mais bon, c'est au milieu, en gros, on va dire au milieu du 19e siècle, comme le reste. Hein, comme,
Mais je crois que vous n'avez pas compris ma question. Ce que je voudrais savoir, c'est l'œuvre la plus ancienne aujourd'hui.
C'est la grotte Chauvet. Non, c'est les statuettes allemandes.
Voilà. Excusez-moi. Donc là, on est à combien? On est à 30 000.
On est aux alentours de moins 40 000. Moins 38
000. Moins 40 000,
voilà,
c'est
moins
30, ça.
Disons en gros, il y a une période entre moins 38 et moins 36.
Là, j'ai ma réponse.
Voilà, excusez-moi. Excusez-nous. On a ces petites statuettes en Allemagne en ivoire et on a la grotte Chauvet.
Ouais.
Et on retrouve les mêmes thèmes, hein, justement, entre la grotte Chauvet et ces petites statuettes en ivoire.
Ouais.
Et ça, pour le moment, c'est les plus anciennes pour le moment, sur le continent européen. Après, il y a l'Australie, où on a l'arrivée d'Homo sapiens aux alentours de moins 50 000 en Australie. Alors, pour le moment, en Australie, on n'arrive pas à dater directement les parois. On a des choses aux alentours de moins 28 000 à Navarla, en terre d'Arnhem, en fouille archéologique, un petit morceau de fragments de parois avec un petit dessin noir. Mmh. Mais où il y a du sapiens, il peut y avoir des grottes et des objets plus anciens.
Ouais. Il y a des dates aussi en Indonésie qui ont été publiées il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ans, qui donnent aussi toujours sur la même fourchette, hein, qui sont entre 35 et 40 000.
Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre la découverte de l'art préhistorique et vous répondez aux questions des auditeurs qui arrivent sur franceinter.fr.
I'm no longer found. Bugs got a Miami. Passed out in the yard. Spiders on my tummy. I'm no longer found. Sex got on my pride. I'm no longer found. Passed out in the yard of angels. Disabled. I saw someone change the labels. I've seen it. I saw someone change the meaning. Once we were lost, like we almost, like we almost were in love. Can't you help it? Thinking of me, think you love me. It's like you must, like you. Got on my boogie, crawling in the yard. Acid went right for me. I'm no longer found. Love got on my down. I'm no longer found. Flying in the sky like Cupid. Hypocrite. I saw someone change their habits. I've seen it. They saw.
Tamino, c'était Tumi. Carole Fritz, Gilles Tozello, mes invités cet après-midi à l'occasion de la publication de ce beau livre, L'art de la préhistoire, sous la direction donc de Carole Fritz aux éditions Citadel et Masno. Comment on s'attaque à un tel travail, justement, Carole Fritz, pour essayer de retracer à l'échelle mondiale l'ensemble des connaissances sur l'art préhistorique, avec donc ce livre qui fait 600 pages, qui regroupe 700 illustrations, et vous auriez pu en faire une dizaine comme ça, quasiment, hein.
Oui. Ouais. C'est assez facile à faire, entre guillemets.
En tout cas, il y a de la matière.
Voilà, il hein. y a
beaucoup de matière.
Il y a beaucoup de matière. Alors, s'attaquer, c'est un peu ça.
C'est 500 siècles d'art rupestre, au fond ?
Oui, tout à fait. L'idée du départ, c'était de faire un livre sur les recherches récentes en Europe. Sur la relation art et société dans les sociétés préhistoriques. Et Citadel et Masno nous a dit, est-ce qu'on pourrait pas faire une vue générale sur l'art rupestre mondial. Et là, avec Gilles et Gilles Tozello...
Vous avez eu le vertige.
On a eu un peu le vertige. On en a parlé entre nous avec les membres du comité éditorial. On s'est dit, mais comment on va faire ? Alors, il a fallu faire des choix. Et les choix, c'était des choix scientifiques, on va dire, parce que nous, on voulait que ce soit les acteurs de la recherche qui écrivent les articles et pas nous qui entamions une lecture pour faire des synthèses. Donc, on a demandé à nos collègues qu'on connaît bien de faire ces synthèses et de faire certains focus sur certains sites, sur certains continents.
Ouais.
Bien sûr, il y a des frustrations puisque on n'a pas pu tout mettre et on voit aujourd'hui ce qui manque, mais on était limité par les pages, par le volume. Ouais. On n'en avait le droit qu'à un volume, pas à deux ou trois.
Ouais. Donc, c'est déjà un ouvrage de référence et c'est important, hein, quand on veut avoir des connaissances sur l'art préhistorique, on peut y aller les yeux fermés parce qu'on est sûr d'y trouver les bonnes informations avec les recherches les plus récentes. Vous vous inscrivez dans une tradition éditoriale aussi finalement avec ce livre, hein.
Oui, ce livre est pour nous important puisque c'est le numéro 50 hein, de chez Citadel et Masneau. Le numéro 1, c'était Préhistoire de l'art occidental d'André Leroy-Gourhan. Alors, on ne se compare pas à André Leroy-Gourhan, mais on essaie de mettre en place, pour nous, c'est important de faire voir que la recherche a évolué, puisque Préhistoire de l'art occidental, c'était Préhistoire de l'art occidental, comme l'a écrit Philippe Dagen dans Le Monde, c'est-à-dire focusé sur l'Europe, et c'est les thèses d'un seul homme, ouais. Alors que nous, on a ouvert.
C'est un collectif.
C'est un collectif, et c'est ce que est la recherche aujourd'hui.
C'est ça, ça reflète exactement le travail des chercheurs aujourd'hui, qui, d'un bout à l'autre, d'ailleurs, de la planète, hein, échangent leurs informations.
Exactement,
et
merci Internet.
Ouais. André Leroy-Gourhan, on va lui rendre hommage d'une certaine manière en écoutant sa voix, extrait d'une archive de 1965 sur France Inter.
Ce qu'on n'avait pas vu peut-être jusqu'alors, c'est le fait que la caverne était sentie par les paléolithiques comme un fond dans lequel s'ordonnaient leurs figures. N'est-ce pas ? J'ai été obligé de prendre le détour de la topographie statistique, de fixer des centaines de figures dans leur situation, pour m'apercevoir que finalement, les bisons n'occupaient pas la même position que les chevaux, que les taureaux, que les cerfs, que les bouquetins, etc. Et que tout ça s'organisait dans un système où on retrouvait les mêmes fréquences, c'est-à-dire l'opposition du bison et du cheval, ou du taureau et du cheval, ou du mammouth qui vient compléter un groupe bison-cheval, etc. Découverte qui, pour moi-même, a été très inattendue.
Voilà, 1965, c'était au moment de la sortie justement de la préhistoire de l'art occidental, André Leroy-Gourhan. Qu'est-ce qu'il nous explique au fond, Gilles Tozello, dans l'extrait qu'on vient d'entendre ? Parce qu'il parle de système, il parle de fréquence, comme s'il y avait déjà des règles établies dans l'art de l'époque. Est-ce que c'était le cas vraiment ?
Oui, c'était d'abord merci d'avoir passé cette archive qui est assez passionnante, je la connaissais pas. Mais il s'est attaché à voir ou à mettre en évidence Leroy Gourhan cette démarche structuraliste, hein, c'est-à-dire en gros le lien qu'il y a entre le thème, le sujet représenté et sa position dans l'espace de la grotte. Et le lien que ce sujet va entretenir avec d'autres thèmes, etc. Et c'était la première fois, effectivement, qu'on avait mis en avant un peu cette particularité qu'on peut effectivement ressentir aujourd'hui. Bon, peut-être pas dans les termes que lui expose, parce que ça, c'est une analyse, on va dire, personnelle. Mm-hmm. Mais il est évident que si on prend l'exemple de Lascaux ou si on prend l'exemple de Chauvet, des grandes grottes, on voit bien qu'il y a... que le parcours dans la grotte est aussi important que les thèmes représentés.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on ne représente pas n'importe quoi, n'importe où.
Et ouais. Que donc il y a des règles, quand même ?
Il y a des règles. Alors c'est là qu'on ça devient de plus en plus complexe, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'objectiver les arguments qui mettent en avant ces règles.
Ouais. Alors ça c'est passionnant aussi d'un point de vue scientifique, Carole Fritz, c'est la représentation et l'interprétation surtout des choses, parce que évidemment parfois on avance un peu sur des sables mouvants, hein, mais c'est aussi la science, c'est-à-dire qu'on fait des hypothèses et en l'occurrence sur cet exemple précis, on admet qu'il y avait des codes, au fond, qu'on peut retrouver d'ailleurs d'une grotte à l'autre ou d'un continent à l'autre ?
Alors, d'un continent à l'autre, j'irai pas jusqu'à là.
Ouais.
Pour l'art paléolithique, parce qu'en plus,
bon,
il est très restreint.
Là on est plus
mais
en Europe, ouais.
Pour l'art paléolithique en Europe, oui, c'est, il faut. En fait, ce que Leroy Gourhan a apporté depuis très longtemps, c'est que reconnaître cette structuration de l'art, paléolithique, c'est aussi reconnaître que ce sont des codes et que on nous transmet un message. Mmh. Alors notre problème à nous, c'est qu'on n'a plus les locuteurs, on n'a pas les langues, on n'a plus les personnes. C'est-à-dire que pour comprendre ces messages, on travaille sur les dessins et on travaille sur les sites archéologiques, c'est-à-dire sur les sociétés qui ont produit ces dessins. Alors là, c'est très difficile. Alors, c'est vrai que les interprétations actuelles, on est plutôt vers des tendances mythologiques. C'est-à-dire que, et ça, Chauvet, la découverte de Chauvet nous a beaucoup apporté, puisqu'on a reconstruit nos paradigmes. C'est-à-dire que Chauvet a balayé tout ce que l'on pensait sur l'évolution de l'art, et on a dû se remettre... À nos feuilles et à reprendre les chevaux en essayant de tirer des fils pour essayer d'aller vers d'autres interprétations.
Ouais. Pourquoi justement Chauvet a autant redistribué les cartes, Gilles Tozzello, alors qu'on comprenne bien ce que vous nous dites là, sur les bouleversements au sein même de votre discipline?
C'était, pour reprendre une expression un peu savante, ce qu'on appelle un changement de paradigme, c'est-à-dire en fait une ouverture d'une nouvelle perspective. Et ça arrive pas si souvent dans l'histoire d'une discipline, surtout en sciences humaines, parce que on était auparavant, jusqu'en 1995, jusqu'aux premières datations, les datations très anciennes donc pour la grotte Chauvet, on était persuadé que l'art évoluait comme l'humanité, c'est-à-dire qu'en gros on passait du simple au complexe et que on avait comme ça des gradations qui étaient fondées sur un seul critère important qui était la ressemblance au modèle. C'est-à-dire qu'on estimait qu'un animal, puisqu'il s'agit surtout d'animaux, était d'autant plus élaboré et donc récent qu'il ressemblait anatomiquement, physiquement, physiologiquement presque, à son modèle. Et donc, on en était arrivé à bâtir donc ce système qu'on croyait très solide. Or, la grotte Chauvet, en apportant des dates extrêmement anciennes sur des dessins très élaborés, a simplement inversé complètement la donne.
Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre la découverte de l'art préhistorique et vous répondez aux questions des auditeurs qui arrivent sur franceinter.fr.
J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage, sur l'eau. Les onches qui balancent et les sourires fugaces, je regarde.
Et c'était Patrick Coutin, j'aime regarder les filles.
La tête au carré. Sur France Inter.
Carole Fritz, Gilles Tozello, mes invités cet après-midi à l'occasion de la publication de ce beau livre, L'art de la préhistoire, sous la direction donc de Carole Fritz aux éditions Citadel et Masno. Carole, qu'est-ce qu'ils nous disent ces hommes préhistoriques justement? Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Alors, c'est de la spiritualité? Ce sont des histoires inventées? Annie nous dit, une question de tarot depuis longtemps, est-ce qu'il serait possible que ces expressions graphiques soient en fait comme un tableau de chasse ou un tableau de salle de classe pour apprendre aux jeunes à chasser, ou des sortes de paperboard d'avant-campagne de chasse entre hommes adultes? Alors, il y a plein de choses à dire.
Oui,
là,
il y a beaucoup de choses. L'art de la chasse, je pense pas. Mais c'est un paperboard de mythe. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de société dite ancienne sans mythe, sans mythologie, puisque les mythes vont expliquer le passé, organiser le présent et ouvrir le futur, c'est-à-dire organiser le présent aussi en les relations sociales, organiser la société. Or, la grotte Chauvet nous a fait prendre conscience que ces parois, en fait, elles étaient beaucoup plus narratives que ce qu'on l'imaginait. Et en travaillant dessus avec nos collègues, bien sûr, hein, on fait jamais ça seul, on s'est aperçu que c'est certainement des... Moi, j'aime bien reprendre, détourner l'expression de Lévi-Strauss, ces mythèmes, ces petites histoires, en fait, de mythes. C'est-à-dire que sur la salle du fond, on voit ces lions à Chauvet qui vont chasser ces bisons, en fait. Et face à quoi? Face à un pendant rocheux où on a un corps de femme, du moins le bas d'un corps de femme associé à un lion et un bison. Là, on est complètement dans l'interprétation. La mort, la vie... On pense qu'il y a ça. Et bizarrement, quand on regarde ces images et qu'on les cherche tout au long du paléolithique, on les retrouve.
Ouais.
Et il est difficile de ne pas associer Chauvet à, par exemple, à un site comme Angle sur l'Anglin, où travaille Geneviève Pinson, qui est dans le comité éditorial de ce livre. Ouais.
Gilles Tozello, ça veut dire qu'il faut aussi regarder l'ensemble de la grotte lorsqu'on est à l'intérieur, parce que certaines parois aussi peuvent se répondre pour nous dire des choses. Il ne faut pas rester plaqué juste sur l'une d'entre elles.
Non, c'est ça qui est le plus difficile. Il faut essayer de se rappeler de ce qu'on a vu avant pour l'intégrer progressivement. C'est pour ça qu'on emploie le terme de parcours, un peu comme on le refait dans un sanctuaire antique ou dans une église. On voit bien qu'il y a une sorte de répartition des thèmes en fonction de l'espace de l'église ou du temple. Donc là, on est un peu... Pour employer une image qui vaut ce qu'elle vaut, on est un peu dans le même cadre.
Ouais. Pourquoi pas plus de représentations humaines, demande Julien.
Alors, Carole Fritz, représentation
pourquoi
humaine.
Tous ces animaux et si peu d'homo sapiens sapiens?
Ça, c'est une des particularités de l'art paléolithique. C'est-à-dire que sur toute la totalité, entre moins 30 000, on va dire, moins 40 000 et moins 12 000, moins 11 000, la figuration humaine ne représente à peine que 5% du corpus total.
Ouais.
Ce qui va changer dans les arts post-paléolithiques.
Absolument.
Où l'homme, là, va se mettre en scène.
Alors, je pense, par exemple, vous voyez, j'ouvre la page 199, un exemple parmi tant d'autres. On a l'Algérie, par exemple, des choses magnifiques. Vous pouvez nous les décrire en quelques mots, car Fritz, justement, on voit beaucoup
c'est
d'hommes.
C'est surtout Michel Barbaza qui pourrait vous les décrire mieux que moi. Il y a des scènes de. On voit en Algérie sur ces parois où l'homme, en fait, se met en scène, le pasteur.
Avec ses animaux.
Avec ses animaux.
Ouais.
On voit aussi des scènes de danse où il y a des rapports très forts entre, justement, les bovins et les humains par rapport aux colorations des bovins. On voit des troupeaux, on voit des gens qui ramènent les troupeaux vers les camps.
Ça c'était il y a 3000 ans.
Voilà, ça, au Paléolithique, ça n'existe pas.
C'est ça. Ouais.
Ça n'existe pas. C'est la grande différence. Le paléolithique, mais c'est l'image animale qui va dominer, mais au travers de cette image animale, c'est certainement des histoires d'hommes qu'on nous raconte. Mais c'est pas l'homme qui se met en scène.
Ouais. Francine nous écrit sur franceinter.fr, nous dit « Pensez-vous que les dessins sur les parois ont été faits grâce à des projections d'ombre à partir de petites figurines et grâce à l'utilisation de lampes à huile, ce qui leur permet d'avoir une précision des contours et de jouer avec des échelles de taille différentes ?» Ça, c'est pour vous, alors, Gilles Tozzello.
La réponse est définitivement non. Ouais, ah, c'est sûr. S'il y a une chose dont on est sûr, c'est bien ça. Ça fait référence à une théorie qui a été développée dans un livre que moi, personnellement, je ne conseille de ne pas lire, mais qui part du principe qu'effectivement, on fabriquait des petites statuettes. Alors, on ne comprend pas bien comment on les manipulait, ouais. on les fixait au bout de baguettes et on les éclairait. Enfin, tout ça, ouais. quand on connaît un peu et de près le travail des artistes de Lascaux, d'Altamira ou de tous les arts rupestres du monde, c'est leur faire insulte que d'imaginer. Bon. Voilà.
Alors, c'est quoi la version officielle alors, ou l'autre version reconnue par les scientifiques en tous les cas la façon de procéder, justement.
Ah, la façon de procéder. Ben, la façon de procéder, elle commence simplement par d'abord posséder un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Hein. Mmh. C'est pour ça qu'on a des traditions différentes suivant les pays, suivant les régions. Et ensuite, par travailler, posséder donc à partir de cette technique, préparer ses pigments, préparer ses charbons, apporter de la lumière. Mmh. Et à ce moment-là, quand on voit tout le travail qui a été fait, par exemple, à Lascaux, hein, on a des données incroyables sur les manières dont ils ont travaillé. Et je peux vous dire que c'est pas en projetant des petites statuettes d'argile avec une lampe à graisse qu'ils ont procédé.
Ouais. Jérôme demande comment expliquer une telle conservation justement des œuvres d'art dans la durée. Qui veut répondre, Carole
ça,
Fritz
Moi, je dirais, c'est un miracle. C'est pour ça qu'après, une fois qu'on découvre un site...
C'est un drôle de mot dans la bouche d'une scientifique, ça.
Je suis d'accord avec vous, mais vous savez, quand on voit des sculptures en argile conservées au fond de la grotte du Tuc de Doubert, qui ont 14 000 ans, des sculptures en argile qui font 30 cm chacune de l'eau, là, on se dit, rien n'est tombé du plafond, ouais. L'humidité n'a pas envahi la grotte, pour etc. Alors après, parce que les grottes se sont fermées, parce que il n'y a pas eu de pénétration importante d'air, d'eau, etc. C'est pour ça que je dis, on est dans un milieu vivant. Une grotte, un abri, ça bouge tout le temps, tout le temps. Et c'est pour ça qu'après, quand on découvre un site comme ça, il faut que les États qui sont en charge de ces sites d'art rupestre, qu'ils soient paléolithiques, post-paléolithiques, actuels, prennent toutes les conditions nécessaires pour préserver ces sites. Et c'est là que ça commence à... qu'il y a des choses à voir. Mais il faut dire qu'en France, le ministère de la Culture est au sommet de ces terres de conservation et on voit très bien ce qu'ils ont fait pour Chauvet, par exemple.
Quand vous dites actuel, évidemment, on a l'oreille qui sonne, parce que ça veut dire quoi, l'art actuel dans ce domaine? On fait encore
du
dessin
oui.
ou des peintures sur les parois?
Oui, oui, ben, en Australie ou en Inde. Alors, évidemment, moi, j'ai le regard de l'archéologue européen, bien sûr. Mais par exemple, les aborigènes continuent à peindre dans les sites de leurs ancêtres. Et ça, c'est très important également.
On va en parler évidemment de cet exemple australien parce qu'il est passionnant et vous l'abordez évidemment longuement dans cet ouvrage. On va juste écouter avant l'extrait d'un documentaire qu'Arte avait diffusé il y a quelques jours quand Homo sapiens peupla la planète Australie autour du site de Nawarla.
Nawarla Gabarnmang est un gigantesque abri rocheux façonné par les vents, mais également sculpté par la main de l'homme. C'est sans doute l'un des plus vieux monuments du monde. Il daterait de 28 000 ans.
Mes ancêtres ont vécu ici. Tous les membres de ma famille sont présents pour toujours à Nawarla Gabarnmang.
Les parois sont couvertes de plusieurs strates de dessins représentant les animaux que chassaient les aborigènes.
Ici, c'est une dorade. Là, je vois un crocodile. Celui-ci, c'est un grand kangourou qui va jusque-là.
Les archéologues n'ont pas encore exhumé d'ossements humains ici, mais ils ont retrouvé des œuvres d'art de plus de 30 000 ans.
C'est un petit fragment de la surface peinte. On voit plusieurs lignes. Une ligne droite, coupée par une ligne incurvée. Que représentait le dessin d'origine? Mystère.
Voilà, des mystères et des beautés stupéfiantes à découvrir en Australie sur ce site de Nawarla. D'ailleurs, j'invite les auditeurs qui nous écoutent à taper sur leur moteur de recherche Nawarla, N-A-W-A-R-L-A, en Australie, pour voir un petit peu de quoi on parle avant d'acheter votre livre, évidemment, parce qu'il y a énormément de photos. Carole Fritz, vous êtes allée sur place, vous connaissez évidemment ce site qui est tout à fait exceptionnel hein, dans l'art... j'allais dire préhistorique, mais c'est presque compliqué de dire qu'il n'est pas que préhistorique, il est aussi contemporain. Hein.
Alors, je ne suis pas allée à Nawarla, hélas, mais les collègues français qui travaillent à Nawarla, on les connaît très très bien, qui sont Jean-Michel Genest, Jean-Jacques Delannoy, qui travaille avec Bruno David, qui lui est un franco-australien, mais qui vit en Australie depuis des années. Non, c'est un site magnifique, exceptionnel. Alors, il est content.
On peut le décrire parce que ce sont des plafonds sur des...
En fait, c'est un abri, c'est ce qu'on appelle un abri sous roche qui a été taillé, aménagé par les aborigènes. Ils ont taillé, ils ont fait des piliers.
Avec des piliers.
Et ces plafonds sont couverts de peinture jusque dans les années 30. Ça doit être ça. Et
avec cette ocre hein, qu'on retrouve
beaucoup.
Ah oui,
ces couleurs très vives.
Vraiment très typiques.
C'est les couleurs naturelles, c'est-à-dire tous les oxydes de fer, plus le blanc, certainement du kaolin. Et il y a toute la nature qui produit la couleur et qui donne la matière aux artistes aborigènes.
Alors c'est bien parce qu'il y a une photo où justement on voit, je crois que c'est une dame aborigène d'ailleurs qui est sur la photo, donc elle est quasiment à hauteur de pilier, hein. C'est-à-dire qu'on pouvait peindre Gilles Tozzello simplement en tendant le bras, c'est ça ?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait là le plafond de espèce de table rocheuse, hein, le plafond rocheux, est juste à portée de main. Et donc on circule dans cet espace à la fois naturel et retaillé par les hommes. C'est sûr que ça en fait un compromis, un mixte tout à fait unique.
Ouais. La datation justement de ce site, Carole Fritz.
Alors les peintures, je vous ai dit, celles qu'on voit à l'heure actuelle sont récentes, hein, des années 30, mais les fouilles ont été menées... par Bruno David et son équipe. Et là, on a des dates aux alentours de 28-30 000. Une petite plaque avec quelques traits de peinture, plus des outils en silex. Ouais. Alors évidemment, ça ne date pas directement les plus anciennes peintures, puisqu'il faut faire le rapport hein, entre les parois. Mais il y a une coupe très, très ancienne. Ouais. Et je pense qu'en Australie, il y aura des dates très anciennes pour les peintures.
Sauf que Gilles Tozzello, il faut quand même en dire un mot, parce que ça fait aussi la particularité de ces sites aborigènes, c'est qu'on peint encore sur ces peintures très anciennes, c'est ça ?
Eh bien, oui, c'est un peu la particularité de ce continent, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a encore un art rupestre vivant, et dans certains cas, dans certains sites et dans certaines cérémonies, des artistes vont ajouter des œuvres sur, on va dire, sur des parois avec déjà peintes depuis fort longtemps.
C'est comme si on arrivait à Lascaux et qu'on remettait un petit coup de peinture. Vous pourriez le faire, vous d'ailleurs, parce que vous savez drôlement bien les reproduire, ces grottes. Donc c'est comme si vous arriviez à Chauvet et que vous remettiez votre pâte en faisant autre chose.
C'est un peu différent parce que nous, on a quand même perdu le fil du message depuis Chauvet et Lascaux, alors que eux l'ont gardé. Donc c'est sûr qu'ils ajoutent quelque chose, mais quelque chose qui est pertinent par rapport au substrat.
C'est autorisé.
Ah oui, c'est autorisé.
Et artistiquement, les aborigènes d'aujourd'hui sont aussi doués que leurs ancêtres d'il y a 15 000 ou 20 000 ans ou pas ? Allez, franchement, sans langue de bois. Sans langue de bois, Gilles Tozzello.
C'est comme dans tous les pays et les continents. Il y a de très grands artistes, y compris des artistes d'ailleurs qui vendent sur toile. Hein. Motifs traditionnels maintenant ont aussi quitté la paroi et l'écorce pour se transporter sur des toiles et être vendus à l'étranger. Ouais. Donc non, il y a de très très grands artistes.
Et d'autres beaucoup moins doués.
Et d'autres
voilà. Carole Fritz, pour terminer, Rémi nous dit, j'ai l'impression que le graffiti contemporain est régi par les mêmes intentions créatives que l'art pariétal. Le graffiti d'aujourd'hui est-il l'art rupestre de demain ?
Ah oui, Alors, il faut faire... Bien sûr, il y a des marges, c'est-à-dire que le message de l'art rupestre n'est pas celui du graffiti contemporain. On n'est pas... Le graffiti contemporain n'est pas une religion, quoi, avec... Je mets toujours des guillemets à ce mot, mais voilà. Mais pour moi, quelqu'un comme Brandi est un artiste rupestre de premier ordre.
Et puis Simon nous dit, les peintres dits modernes et contemporains se sont-ils inspirés de l'art pariétal ? Alors c'est un complément de question finalement précédente.
Bien sûr, il y a des même contemporains, il y a des gens tout à fait... l'art pariétal...
On dit que Picasso s'en est inspiré.
Picasso se serait inspiré des...
Voilà, et c'est très fréquent. Et je pense que les artistes contemporains, quand ils se retrouvent face à des parois comme Chauvet, sont forcément dans l'interrogation.
Merci beaucoup en tout cas à vous et félicitations pour ce travail qui fait déjà date, l'art de la préhistoire, donc aux éditions Citadel et Masno. C'est un très beau livre avec donc ces très nombreuses illustrations, 700 hein, pour l'iconographie que vous avez dirigé, Carole Fritz. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui.
Merci.
Dans la tête au carré.
La science grand format en partenariat avec France 5.
Voilà, et comme tous les jeudis soirs, nous retrouvons notre documentaire. Bonjour Perrine Poubeau.
Bonjour Mathieu.
Et ce soir, nous partons d'abord pour une expédition sur les flancs d'un des volcans les plus dangereux du monde avec un film Nyiragongo, voyage au cœur du volcan.
Oui Mathieu, il s'agit d'un véritable récit d'aventure. On va suivre la plus grande expédition jamais organisée sur le volcan Nyiragongo, qui abrite en fait le plus grand lac de lave au monde. Il se trouve en RDC, tout près de la frontière avec le Rwanda, et la mission est particulièrement risquée. Ces scientifiques intrépides sont partis avec l'objectif d'aller au plus près du cratère et d'installer des outils de surveillance pour mieux anticiper la prochaine éruption.
Ouais.
Il faut dire que la ville de Goma se trouve à 15 kilomètres à peine du Nyiragongo et compte 1 million d'habitants. L'expédition est donc vitale pour mettre en place un système d'alerte qui permette aux populations alentours d'évacuer à temps.
Alors la dernière éruption d'ailleurs, Perrine, c'était en 2002, a coûté la vie à près de 150 personnes. Mmh. Et la prochaine peut intervenir à tout moment. Donc les volcanologues doivent s'adapter à un terrain particulièrement dangereux. On va écouter Benoît Smets, le chef de l'expédition.
Le campement a été installé à mi-chemin entre deux dangers potentiels. La falaise verticale qui descend jusqu'au lac est à moins de 50 mètres. Et derrière les tentes, il y a de nombreux rochers tombés des versants du cratère, signe des éboulements fréquents qui peuvent avoir lieu à tout moment. Malgré tout, Benoît est ravi.
Mettons enfin les pieds sur la deuxième plateforme dans le cratère du Nyiragongo. Ça a pris du temps, plus de temps que ce qu'on voulait. Maintenant, on est ici en bas. Voilà pourquoi on travaille ici. Voilà pourquoi on prend tous ces risques. Risque quand même. Magnifique. Avec de lave.
Voilà, on va comprendre ce soir en regardant le documentaire que sur les pentes de ce cratère, Perrine, le danger est omniprésent et que rien ne se passe jamais comme prévu, en fait. Hein.
Oui, et Benoît Smet s'exprime aussi très bien la fascination qu'exerce ce volcan, le privilège de l'approcher de si près. Et vous verrez dans notre documentaire que les images de lave en fusion sont vraiment spectaculaires.
Ouais.
Et surtout, Benoît Smet témoigne de l'utilité de sa mission. Le rôle des volcanologues est à la fois scientifique et humanitaire et cette mission va permettre de placer des outils pour analyser les secousses sismiques mais aussi les émanations de gaz, les brusques variations de la lave dans le cratère et les infrasons émis par le volcan qui sont autant de signes annonciateurs d'une éruption.
Donc ce sera le premier documentaire et puis la soirée va se poursuivre avec un autre volcan, le Vésuve, hein, puisqu'on reviendra sur les dernières nouvelles archéologiques faites autour de la ville de Pompéi dans ce film Révélation sur Pompéi. Voilà, donc c'est Science Grand Format ce soir, 20h50. C'est sur France 5. Merci Perrine.
Merci Mathieu.
Et à la semaine prochaine. C'est terminé pour notre tête au carré. Merci à Thierry Dupin qui assurait la programmation musicale de l'émission. Dans un instant, vous retrouverez Fabrice Drouel avec Affaires Sensibles. Et demain, vendredi, ce sera le club des têtes au carré. Bon après-midi à tous et à demain.